France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Les particules ont des propriétés intrinsèques comme la masse, la charge électrique et le spin. Comment la découverte de cette caractéristique quantique a-t-elle bouleversé notre compréhension de la matière ? De l'angle et spin pour tourner, ce concept qui va nous faire tourner la tête est désormais bien compris par les physiciens. Le spin décrit la façon dont l'état d'une particule évolue lorsqu'on la fait pivoter dans l'espace. En somme, il définit le comportement même des constituants de la matière. Sa découverte en 1922 marque un tournant en mécanique quantique et en général en physique des matériaux. De nombreuses technologies n'auraient pas vu le jour autrement. Aujourd'hui, avec les liquides ou les glaces de spin quantique, les investigations sur ces différents états de la matière se poursuivent. Mécanique quantique tournée autour du spin. Lucile Savary, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en physique quantique des matériaux et directrice du laboratoire FACS à la Santa Barbara en Californie. Vous êtes également médaille de bronze CNRS 2022. Antoine Bourget, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien théoricien à l'Institut de physique théorique du CEA Saclay, professeur chargé de cours à l'École Polytechnique et créateur de la chaîne YouTube Scienta et Grégia. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture. Et puis merci à vous aussi également d'être là avec nous en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez aussi suivre cette émission nous rejoignant sur Blue Sky, sur notre compte, @sciencecqfd. Alors comment la notion de spin a-t-elle été mise en évidence? À quoi correspond une particule de spin 1, 0 ou 2? Et qu'appelle-t-on liquide et glace de spin? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, c'est un concept central en mécanique quantique, c'est un concept abstrait. Antoine Bourget, comment peut-on se représenter cette notion ?
Alors, c'est une question qui est très difficile parce qu'effectivement, c'est un concept qui est comme celui de la charge électrique ou de la masse, mais qui est difficile à concevoir d'un point de vue classique. C'est quelque chose d'intrinsèquement quantique. Mais bon, une façon dont on peut essayer de se modéliser les choses, c'est comme vous l'aviez dit tout à l'heure, un petit mouvement de rotation des particules sur elles-mêmes. Et bon, c'est dans une première approximation, c'est pas mal, mais on va voir sans doute tout à l'heure que ça a quand même des défauts de penser comme ça et que ce serait très incomplet.
Lucile Savary, pareil, en première approximation.
C'est comme l'a dit Antoine, c'est vraiment une caractéristique aussi fondamentale que la masse ou la charge, mais dont un équivalent entre guillemets classique, ce serait le moment angulaire, c'est-à-dire vous avez des enfants qui sont sur un tourniquet et ils ont une vitesse mais qui change de direction puisqu'ils sont en train de tourner, donc il y a ce qu'on appelle un moment angulaire, une vitesse angulaire, mais qui cette fois-ci est purement quantique, mais qui physiquement va interagir avec un champ magnétique. De la même manière qu'un aimant.
On va tout de suite écouter également une nouvelle autre allégorie. Elle est issue de notre archive du jour et nous sommes en 1960.
Un progrès important dans notre connaissance des deux particules élémentaires fondamentales a été accompli en 1926. Deux jeunes Néerlandais, Uhlenbeck et Goudsmit, à présent aux États-Unis, ont prouvé la nécessité de compléter la définition physique de l'électron par une propriété nouvelle résultant à ce moment de l'étude des spectres optiques, mais qui aujourd'hui pénètre toute la physique des quantas. Il s'agit du spin de l'électron. Ce jargon désigne la propriété qui nous est familière dans le mouvement de la toupie, un moment cinétique ou angulaire dû à la rotation interne. Toutefois, nous devons nous interdire de rechercher une similitude trop grande, sous peine de nous heurter à des inconséquences qui se rattachent au fait que l'électron, comme toute particule vraiment élémentaire, a perdu toute forme géométrique sensible. En employant comme unité la fameuse constante de Planck, H divisé par 2π, que l'on représente par la lettre H barrée transversalement, le spin de l'électron a la valeur 1/2. Une charge électrique en rotation entraîne l'existence d'un moment magnétique, ce qui a aussi été vérifié expérimentalement. Quelques années plus tard, le grand théoricien allemand Heisenberg a prévu les mêmes propriétés pour le proton, ce qui a immédiatement été confirmé. La découverte du spin a eu des répercussions profondes dans toute la physique. Le spin n'a qu'une influence souvent négligeable sur les énergies des phénomènes. Par contre, il introduit une symétrie interne nouvelle dans les phénomènes qui n'a rien de commun avec les symétries géométriques qui nous sont familières. Dans les molécules, par exemple, c'est au spin de deux électrons appariés qu'est due la liaison covalente des chimistes. Chez les particules élémentaires, le spin est devenu un élément de classification fondamental.
Voilà un extrait d'émission Université Radiophonique Internationale sur la RDF en 1960. Antoine Bourget, on entendait cette analogie de la toupie, c'est un faux ami pour comprendre cette notion de spin?
Alors je dirais pas que c'est un faux ami parce que c'est quand même c'est la meilleure chose qu'on pourrait faire classiquement, mais c'est problématique pour pas mal de raisons quand même, parce que on a mentionné donc que le spin de l'électron c'était donc 1,5, et on va revenir là-dessus pendant assez longtemps dans cette heure de discussion, mais c'est une toupie, ça tourne autour d'un axe, alors que l'électron il tourne en quelque sorte autour de tous les axes possibles. Donc on peut mesurer sur n'importe quel axe et on trouvera toujours que ça tourne avec une vitesse, enfin donc un moment angulaire de 1,5 de h bar autour de n'importe quel axe. Donc c'est là les limites, qu'on ne peut pas avoir une toupie qui classiquement tourne autour de tous les axes.
Bien, merci, parce que c'est également une allégorie qu'on entend encore aujourd'hui beaucoup, l'allégorie de la toupie. Lucie, ça varie, on entend également dans cet archive que voilà, la découverte de cette notion de spin, ça a eu une répercussion profonde dans toute la physique. À quel point?
Ben, en fait, je dirais à tous les points. Parce que tout simplement, par exemple, on ne peut pas, la matière ne serait pas stable sans spin. Parce que la matière ne serait pas stable si les électrons n'étaient pas des fermions. Et il n'y a pas de fermions s'il n'y a pas de spin. Donc un fermion, ça va être une particule. Donc je crois que c'est Antoine qui va davantage expliquer ça. Mais un fermion, il y a une correspondance entre la valeur du spin. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de spin 1. Antoine a parlé de spin 1,5. Il y a une correspondance entre la valeur entière ou demi-entière. Donc demi-entière, 1,5, 3,5, 5,5, etc. Ou entière, 0, 1, 2. Et la classification de fermions et de bosons. Les particules de spin 1,5, donc demi-entier, comme l'électron, sont des fermions. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être tous dans le même état, et donc ils ne peuvent pas, si ce n'était pas des fermions, ils se regrouperaient tous et
les atomes s'effondreraient. Quoi.
Voilà.
On va rentrer évidemment dans le détail de ces différentes valeurs de spin, mais d'abord, avant ça, il faut rentrer dans le détail de cette expérience charnière. 1922, deux physiciens allemands, Otto Stern et Walther Gerlach, identifient cette nouvelle propriété. C'est une des expériences fondamentales de la mécanique quantique. Alors quel était le dispositif? En quoi consistait cette expérience, Antoine Bourget?
Alors cette expérience, donc je peux déjà parler du dispositif. Donc l'idée c'est de prendre des atomes d'argent et de les envoyer à travers un champ magnétique qui est non uniforme. Et ce faisant, on observe que les atomes d'argent vont réagir d'une certaine façon sous ce champ magnétique. Et alors, bon, on peut imaginer classiquement que peut-être qu'ils vont être un petit peu déviés. On envoie vraiment un faisceau. Et alors, peut-être qu'ils vont être déviés, voilà. Mais la surprise, c'est qu'ils ne sont pas déviés de façon continue. Le faisceau se divise en deux faisceaux. Un qui part un peu vers le haut, un qui part un peu vers le bas. Et c'est tout. Et ce phénomène-là, classiquement, c'est très difficile. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette expérience? C'était pour tester ce qu'on appelle maintenant la vieille théorie des quantas, c'est-à-dire qu'on pensait que les atomes, c'était le modèle de Bohr, les électrons sont en couche autour des atomes, mais on n'avait pas encore la mécanique quantique à cette époque-là. Et en fait, cette expérience, elle a été faite pour valider cette vieille théorie des quantas, dont on sait maintenant qu'elle est vraiment incomplète. Et cette expérience, elle avait été couronnée de succès, puisqu'on a observé ces deux tâches comme c'était prévu par la vieille théorie des quantas. Et du coup, on a dit, cette vieille théorie, c'est bon, elle est validée. Et donc, en fait, à l'époque, on n'avait pas encore le spin.
Oui, à l'époque, il a fallu un peu de temps pour qu'on ait une interprétation plus juste de ce phénomène. Toujours sur le processus expérimental, pourquoi des atomes d'argent et pourquoi un champ magnétique non uniforme?
Alors, si on avait un champ magnétique uniforme, comme les... En gros, voilà, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails de pourquoi, mais c'est l'aspect non uniforme qui fait que si on a des moments angulaires intrinsèques qui pointent dans différentes directions, alors on va observer deux tâches. C'est un petit peu difficile d'expliquer plus que ça. Et pourquoi des atomes d'argent? Eh bien, parce que j'imagine que c'était ce qui était le plus facile à avoir sous la main à l'époque. Maintenant, on a reproduit cette expérience avec tout type d'atomes. et même de particules.
Oui, puisque aussi, je crois qu'ils sont globalement neutres, donc le champ magnétique n'a donc pas trop d'effet sur ces particules.
Oui, voilà, c'est ça.
En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que parmi ces expériences fondatrices de la mécanique quantique, on pense souvent, en premier lieu, aux expériences d'interférence avec des électrons en utilisant les fonds de Young. Il y a aussi cette expérience-là, du coup, Antoine Bourget.
Oui, oui, tout à fait, c'est vraiment fondamental, mais je dirais qu'elle est plus difficile à interpréter, parce que comme je l'ai dit, elle a été, dans un premier temps, déjà mal interprétée. Et l'expérience des fonds de Young, elle montre ces interférences. Donc, juste pour rappeler un petit peu ce que c'est, on envoie aussi des particules à travers deux fentes et on observe non pas deux tâches, mais là plusieurs bandes, plusieurs tâches, et ce qui veut dire que comme des vagues.
Oui, il n'y a pas besoin de champ magnétique pour l'expérience des fonds de Young, par exemple. C'est vraiment le champ magnétique et du coup le couplage, le fait que le spin, ce soit grosso modo des toupies ou grosso modo des aimants, qui du coup se couplent vraiment, c'est-à-dire interagissent vraiment avec le champ magnétique, du coup selon la direction dans laquelle pointent le nord et le sud de l'aimant, vont être déviés de manière différente.
En tout cas, cette expérience à elle seule illustre plusieurs aspects essentiels et très contre-intuitifs du monde quantique. Quels sont justement ces phénomènes quantiques qu'on voit là déjà rien que dans ce dispositif? On peut parler déjà de la quantification.
Oui, le mot quantique déjà.
Oui. Hein.
La quantification, voilà, qu'on parle maintenant, on parle beaucoup d'ordinateurs quantiques, enfin, il y a vraiment du quantique à toutes les sauces, mais le mot quantique, il vient du fait qu'un phénomène n'est pas continu, mais il est quantique, c'est-à-dire on peut compter ici, il y a deux tâches. Qui arrive dans cette expérience de Stern-Egerlach. Et j'ai oublié quelle était la question.
Ah, par rapport justement à ces phénomènes quantiques, on a la quantification, on peut aussi évoquer la notion de superposition quantique également.
Oui, oui, oui. Même si là, en l'occurrence, ces deux rayons, ils défont, entre guillemets, la superposition. Donc je dirais que la superposition est bien illustrée par l'expérience des fonds de Young. Ici, c'est plutôt vraiment l'aspect quantique dans le sens... on peut compter les choses, quoi. Il y a un, deux états.
Lucie Savary, je vous voyais hocher de la tête, mais...
Oui, il y a aussi la question de la mesure. Donc, effectivement, de les tâches, il y a un lien entre le fait qu'on voit différentes tâches et le fait qu'on ne puisse... Donc on va parler de superposition. Donc, mettons un spin 1,5 qui peut être avoir un pôle... le pôle nord qui pointe vers le haut ou le pôle nord qui pointe vers le bas, on peut en mécanique quantique avoir, on dit de manière, dans le langage courant, que c'est une superposition, il pointe à la fois vers le haut et à la fois vers le bas, comme le chat Schrödinger qui est à la fois mort et à la fois vivant. Mais au moment où on fait la mesure, où on fait interagir cette particule quantique avec notre monde essentiellement classique, eh ben le spin se retrouve dans un seul état, et en l'occurrence, selon qu'il est en haut ou en bas, il va se retrouver, grâce au champ magnétique non uniforme, soit plus en haut, soit plus en bas.
En effet, ce principe de superposition, là, le chat de Schrödinger, ou si par exemple on prend l'exemple de la pièce de Monet, en physique classique, elle n'a que deux états possibles, pile ou face, mais en mécanique quantique, tant qu'on ne l'observe pas, elle peut se trouver dans un état superposé, à la fois pile et à la fois face, avec des probabilités variables. Antoine Bourget, le principe de superposition, on le voit également avec justement ces particules de spin 1,5.
Oui, tout à fait. Alors voilà, on peut se demander, peut-être que si vous vous demandez à quoi ça ressemble un électron qui est dans un état superposé de spin plus 1,5 et moins 1,5. Donc plus 1,5, on va dire, ça pointe vers le haut. Mais donc ça veut dire, vous voyez, il tourne autour d'un axe vertical et il tourne vers la droite. Et l'autre, on va dire que il tourne vers la gauche. Et donc là, quand il est dans une superposition, il tourne à la fois vers la droite et vers la gauche. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire dans cette situation-là? Pour le coup, on a une façon de le voir, c'est qu'il va tourner en fait sur un des axes orthogonaux, d'une certaine façon. Mais alors lequel? Ça va dépendre de exactement quelle est la superposition. Et là, il faut utiliser des nombres complexes. Donc il y a tout un formalisme qui est là-dedans et qui a été compris dans ces années, dans ces années-là. Il y a exactement en fait 100 ans, puisque c'était janvier-février 1926.
100 ans, un joyeux anniversaire. Donc, alors, quelle est l'origine du spin? Quels sont les fondements de cette propriété intrinsèque des particules? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
en direct sur France Culture avec Lucille, ça varie, et Antoine Bourget. Nous parlons du spin, une notion fondamentale de physique quantique. On vient de revenir sur l'expérience de Stern et Gellar qui ont identifié cette nouvelle propriété, le spin, en 1922. On vient de voir également pourquoi cette démonstration est fondatrice de la mécanique quantique. Alors cette seule expérience permet donc d'illustrer plusieurs principes, la quantification, la superposition, l'impact d'une mesure sur l'état du système et une forme de principe d'incertitude. Alors quels sont les fondements de cette propriété intrinsèque des particules? Quelle est l'origine du spin, Antoine Bourget?
Alors donc l'origine du spin, elle est restée mystérieuse quand même pendant quelques années. On se demandait pas à l'époque quelle est l'origine du spin, parce qu'on ne connaissait pas le spin. On se demandait plutôt quelle est l'origine de ces deux tâches qu'on voyait dans l'expérience de Stern et Gellar. Et eux pensaient, ok, c'était la théorie, donc la vieille théorie des quantas, cette espèce du fait que comme il y a plusieurs couches d'électrons autour des atomes, je peux pas rentrer trop dans les détails non plus, mais ça allait donner ça. Et d'ailleurs, ils ont, après leur expérience, ils ont envoyé des cartes postales à tous les collègues du moment pour dire, voilà, la théorie est confirmée, félicitations. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait pas exactement comme ça. Et c'est donc deux physiciens néerlandais, donc Uhlenbeck et Goudsmit, dont on a parlé dans l'archive tout à l'heure.
En 1926,
voilà, qui ont proposé cette idée un peu saugrenue que l'électron, en fait, tournait comme une toupie sur lui-même. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça le spin. Mais ça posait tout un tas de problèmes, et non des moindres, c'était le fait que si on regarde vraiment la valeur du spin, on n'en a pas vraiment parlé encore, mais donc il y a cette constante de Planck, h-bar, et si on fait tourner un électron de sorte que son moment angulaire soit h-bar, alors si on imagine l'électron comme une espèce de petite toupie, une petite sphère, et bien sa surface tournerait plus vite que la lumière. Et donc les physiciens du moment ont dit « c'est n'importe quoi ».
Lucie Savary.
Oui, donc c'est pas possible de tourner plus rapidement que la lumière, donc c'était forcément une autre explication. Et alors là, au niveau du contexte historique, je sais pas exactement que je me rappelle plus exactement du processus, mais on arrive au bout d'un moment à l'équation de Dirac. Et donc Dirac, qui vraiment va proposer une équation qui permet d'expliquer le comportement des électrons, et du coup aussi fait la découverte de positrons.
Donc voilà, l'antimatière, Paul Dirac, le père de l'antimatière également. Alors là, on peut quand même sortir un peu du contexte historique pour revenir sur un peu des fondements théoriques et de compréhension de ces phénomènes. Quand on parle, qu'on présente souvent donc cette notion de physique quantique, le spin, bon, ça découle plutôt de la géométrie de l'espace, des rotations, de la théorie des groupes, Antoine Bourget.
Oui, tout à fait. C'est une propriété mathématique de... Alors là, je vais parler un petit peu, donc, hors de la physique, vraiment c'est quelque chose de fondamental mathématiquement, que l'ensemble de toutes les rotations qu'on peut faire en trois dimensions, bon c'est ce qu'on appelle un groupe, cet ensemble il a une certaine propriété, mais je peux essayer de l'illustrer avec j'ai essayé de réfléchir comment illustrer ça, mais donc une façon, si on fait une rotation, donc on peut imaginer qu'on fait une roulade, par exemple, on se met par terre, hop, on fait une roulade, et alors on va voir, bah, évidemment tout le monde autour de soi va retourner, mais une fois qu'on a fini la roulade, bon bah tout est revenu à l'endroit, quoi. Et ça, c'est la propriété des objets qu'on appelle des vecteurs. Et tous les points de l'espace, ce sont des vecteurs. Et par opposition à ça, certains objets, mais qu'on ne voit pas classiquement, mais si on pouvait voir ce qu'on appelle donc les spinners par opposition aux vecteurs, eh bien, si on pouvait les voir, après avoir fait une roulade, ils seraient identiques à eux-mêmes, mais avec un signe moins. Et donc, en gros, il faudrait faire deux roulades, et là, ils reviennent au début. Et ça, c'est une propriété qu'on peut formaliser. Donc, mathématiquement, on dit que le groupe des rotations n'est pas simplement connexe, mais voilà, ça veut dire ce que je viens de dire avant. Et ce fait tout simple nous dit que, en mécanique quantique, parce qu'on regarde des fonctions d'onde ou des états qui sont définis à ce signe moins près, eh bien, il est possible que ces objets, qui ne peuvent pas exister classiquement, il est possible que ces objets existent. Et voilà, c'est ce qu'on appelle des représentations projective du groupe des rotations.
Lucille Savary.
Oui, je ne sais pas si je peux tellement en dire plus. Je me rappelle que la question précédente se référait à l'incertitude et à H-bar. Et donc là-dessus, Du coup, c'est parce que aussi grâce aux propriétés des groupes de rotation que effectivement on retrouve cette incertitude quantique qui est mieux connue sous la forme de on peut pas avoir mesuré la position et la vitesse en même temps avec une certitude parfaite. Et ben en fait au niveau des spins, ça se traduit on peut pas mesurer différentes directions du spin avec une certitude. On peut pas mesurer à quel point il pointe vers la droite et à quel point il pointe devant avec une parfaite certitude pour les deux. Voilà.
Mais alors comment le spin permet-il de contribuer à caractériser les particules qui en sont dotées, Lucile Savary?
Un électron va avoir une masse M et une charge E. Ok. La masse M mesurée en kilos et une charge E mesurée en coulomb. Là, c'est une propriété supplémentaire et donc il y a, par exemple, les particules du grand tableau de physique fondamentale où il y a différentes particules, différents quarks, il y a le boson de Higgs, etc. Toutes ces particules-là sont aussi caractérisées par leur nombre de spins. Donc, il peut être demi-entier ou entier, qui en fait prend seulement, dans les particules qui sont connues dans ce tableau, prend seulement que des petites valeurs, en fait.
Oui, par exemple, le boson de Higgs est de spin 0, Antoine Bourget.
Oui, tout à fait. Alors, déjà, pour rebondir sur ce que disait Lucile, je me rappelle quand j'étais en cours de mécanique quantique, c'était Jean Dalibard qui était le professeur, et il avait dit, si vous voulez paraître intelligent face à vous voyez des physiciens qui discutent comme ça, et vous dites, ils ont dit qu'ils avaient découvert une nouvelle particule, bah, c'est toujours intelligent de demander à quel est son spin. Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui, c'est une question qui a forcément un sens et qui a forcément une réponse bien définie, déjà. Donc ça, c'est vraiment tout aussi important que sa masse, tout ça.
Mais alors, quel est son spin? Ça veut dire les particules se comportent vraiment différemment selon leur spin?
Oui. Donc, en fait, toute grandeur, comme je l'ai dit, comme le spin, c'est uniquement comment on se comporte sous les rotations, n'importe quoi a un spin. Donc, par exemple, pour prendre des exemples que tout le monde connaît, si on regarde, on regarde la météo et on voit, on nous donne la température, la pression, ces choses-là, quand on fait une rotation, la température ne change pas. Il fait 20 degrés et qu'on tourne pendant toute la durée de la roulade. Et donc ça, on va dire que c'est spin 0, parce que ça ne tourne pas du tout. À l'inverse, la vitesse du vent, si on fait une roulade, pendant qu'on fait la roulade, elle tourne entièrement, donc de 360 degrés. Donc elle, on va dire qu'elle est de spin 1. Et un spin 1,5, c'est quelque chose qui tourne deux fois moins vite. Et donc c'est pour ça que quand on fait un tour, elle a fait qu'un demi-tour. Mais ça a du sens, on pourrait se demander quel est notre spin à nous. Sauf que bon, il est comme on est très très gros, ça va pas avoir beaucoup de sens du point de vue quantique. Mais
ouais, en spin, autre objet, autre particule de spin 1, le photon.
Oui.
Le photon, enfin, c'est quand même.
J'aurais dû répondre pour le boson de Higgs peut-être d'abord, parce que c'était plus simple.
Donc, le boson de Higgs. Ou le boson de Higgs, on peut aussi.
Voilà, le boson de Higgs, c'est un cas un peu unique, parce que donc, comme je le disais, Lucile tout à l'heure, elle mentionnait le fait que dans toutes les particules élémentaires, il y a vraiment une trichotomie, donc il y a trois types de particules. Il y a toutes les particules de matière ont spin 1,5. Donc cette chose bizarre là comme l'électron, mais c'est le cas des protons, des neutrons, des quarks, des neutrinos, tout ça. Ensuite, on a toutes les particules de force, donc comme le photon, c'en est une, ça a spin 1. Et puis on a ce cas particulier, ce boson de Higgs, qui a spin 0. Donc on appelle ça un champ scalaire, et c'est un petit peu mystérieux. Mais donc pour le photon, ça a spin 1. Et comme le disait Lucile aussi tout à l'heure, le fait que le spin soit entier et non pas demi-entier, ça va avoir des conséquences fondamentales sur le comportement à grande échelle, le comportement collectif. Et c'est parce que le photon a spin 1, par exemple, qu'on peut avoir des lasers. Sinon...
Voilà. Oui, Lucile Savary.
Oui, les lasers, c'est justement un peu l'opposé de ce que je disais tout à l'heure pour les fermions, donc pour les électrons en particulier, où les photons, étant donné qu'ils sont des particules de spin entier, ils peuvent être tous dans le même état. Et ça, c'est la base du fonctionnement du laser, où on a une lumière qui est complètement monochrome, c'est parce que tous les photons sont dans le même état.
Peut-être que c'est le moment de dire que c'est, on allait peut-être en parler plus tard, mais que c'est vraiment un nouvel état de la matière. Donc la matière, on sait qu'il y a les états liquides, gaz, solides. Mais quand on est au niveau quantique, donc on va vraiment à très très basse température, donc on est dans le solide, mais on va vraiment à très très basse température, alors les propriétés quantiques commencent à apparaître, et là on va avoir vraiment une différence entre les particules de spin entier ou demi-entier, et ces nouveaux états, donc le laser, bon, c'en est encore une version un peu différente, parce que les photons n'ont pas de masse, mais c'est ces condensats de Bose-Einstein, et il y a tout un tas d'effets dont on pourra peut-être parler tout à l'heure.
Ça, en effet, on va parler en deuxième partie d'émission, justement, de la question de comment la physique des matériaux est très concernée par ces questions de spin, mais voilà, pourquoi dans la nature, finalement, on trouve que des petits spins, dans le cas des particules élémentaires, bien sûr.
Alors, si la question est pourquoi, la réponse est on ne sait pas. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Disons que en mécanique quantique, a priori, il n'y a pas vraiment de bonnes raisons. Et d'ailleurs, des atomes peuvent avoir des spins relativement élevés. Bon, pas à 50 000, mais spin 2, 3, 4.
Mais pour le modèle standard, en l'occurrence.
En revanche, voilà, dans le modèle standard, il se trouve qu'il faut faire appel à une théorie un petit peu plus générale, qui est la théorie quantique des champs, qui unifie la mécanique quantique avec la relativité. Et dans ce cadre-là, il se trouve que pour écrire des théories cohérentes, on ne peut pas vraiment aller au-delà du spin 1, pour des raisons assez, assez fondamentales qui tiennent à la nature des interactions. Et une exception étant l'hypothétique graviton, qui est donc de spin 2.
Le graviton, très hypothétique, hein, qui serait la particule de la gravité.
Oui,
si on doit le résumer un peu à la truelle.
Le graviton est à l'onde gravitationnelle, qui pour le coup a été détectée récemment, ce que le photon est à la lumière.
Eh bien, après voilà, ces fondements théoriques, on parle de ce concept très fondamental, mais tout de même, quelles sont les applications concrètes du spin? Comment ça se passe quand on met un grand nombre de spins ensemble? Comment se comporte-t-il à grande échelle? Restez à l'écoute, on y arrive. De Soul Asylum en direct sur France Culture, car nous parlons du spin. Cette propriété intrinsèque aux particules, au même titre que la masse ou la charge. On en parle avec nos deux invités du jour. Lucile Savary, chercheuse en physique quantique des matériaux, directrice du laboratoire FACS à Santa Barbara. Et Antoine Bourget, physicien, théoricien à l'Institut de physique théorique du CEA, Saclay, et professeur à l'École Polytechnique et créateur de la chaîne YouTube Scienta et Grugia. Les particules ont une propriété intrinsèque qu'on appelle donc le spin, qui caractérise la façon dont change l'état d'une particule lorsqu'on la fait tourner dans l'espace. Certaines particules ont des spins entiers, mais la mécanique quantique permet aussi l'existence de particules de spins demi-entiers. Et vous souhaitiez également, Lucie Savary, apporter une nuance à tout ce qu'on venait de dire également jusqu'ici.
Oui, alors parce que on a dit le spin est une propriété tout à fait classique, et puis ensuite on vous a parlé de toupie, de tourniquet, de roulade, etc. C'est parce que pour faire, étant donné que c'est purement quantique cette quantité, on est obligé de faire des analogies à quelque chose qui existe et qui est classique, donc qui est ce qu'on va appeler le moment angulaire ou le spin orbital, qui va prendre lui des valeurs purement entières, et en fait les états, un électron, il va avoir à la fois un spin, donc 1,5, les autres particules vont avoir leur propre spin, mais il va avoir en plus aussi des caractéristiques de spin orbital qui vont dépendre, elles, de la manière dont il se meut, alors que la valeur de son spin 1,5, elle restera 1,5 pour toujours, quoi.
Oui, puis voilà. tout ça, Antoine Bourget, ça se passe aussi dans des espaces abstraits, quand même, aussi, ce qu'il faut également rappeler.
Oui, on peut se demander, c'est ça, dans quel espace vit le spin. Donc pour quelque chose qui est pour un vecteur, pour passer, on voit bien, comme j'ai dit tout à l'heure, la vitesse du vent, c'est un vecteur, et c'est dans notre espace à nous. Et le spin, cette valeur, quand on dit que cette chose-là tourne deux fois moins vite qu'un vecteur, bah dans quel espace est-ce que ça tourne? La raison pour laquelle on ne le voit pas, c'est que c'est un espace abstrait, donc l'espace des spinners. Et donc c'est un espace qui est de dimension 2, alors que l'espace des vecteurs est de dimension 3. Et vous voyez que l'espace des scalaires, les pressions, les températures, c'est de dimension 1. Donc on est vraiment entre les deux, 1, 2, 3. Et bon, cet espace, c'est pour ça qu'il a fallu aussi longtemps pour arriver à conceptualiser tout ça. Et voilà, et s'en faire une image mentale, ça reste extrêmement difficile. Par contre, si on prend deux spinners et qu'on les met en quelque sorte ensemble, physiquement ou mathématiquement, on va dire qu'on va faire un produit tensoriel, alors on retrouve des choses classiques, des vecteurs et tout ça. Donc c'est une sorte de racine carrée d'un vecteur.
C'est pour ça que vous disiez aussi que les atomes, je ne sais plus si c'était Antoine ou vous qui disiez, ou Natacha qui disait que les atomes pouvaient avoir des spins plus grands. C'est parce qu'en fait, on met ensemble plusieurs particules élémentaires de plus petits spins, et si on les ajoute ensemble, c'est un peu plus compliqué que des additions simples, des additions avec les groupes de rotation, mais c'est le même principe.
Et on va voir ensemble justement ces spins à grande, enfin comment ça se comporte tout ça à grande échelle quand on met plein un grand nombre de spins ensemble, mais de façon très concrète, on a commencé un peu à évoquer les applications les évolutions technologiques grâce à ce concept de physique fondamentale. Quelles sont les autres applications auxquelles on peut penser, les applications concrètes du spin, Antoine Bourget? On a évoqué le laser.
Alors, une autre des grandes applications qui est pour le coup vraiment une application directe du spin, c'est l'imagerie médicale.
Ah, l'IRM, par exemple.
Voilà, l'IRM, la RMN, hein, toutes ces choses-là, ça utilise le fait que les différentes particules, alors pas seulement les électrons, ça peut être les noyaux d'atomes, ont un spin, et par conséquent, c'est pour ça qu'on vous met dans une grosse machine qui génère un champ magnétique. Hein, c'est toujours cette histoire de couplage avec le champ magnétique. Et on va exciter les spins d'une certaine façon, on va les faire tourner d'une façon différente, et ça va permettre de faire de l'imagerie médicale. Donc ça, c'est une des applications. Mais je pense qu'il est important de faire passer le message que c'est une grandeur qui est tellement fondamentale que parler d'application, ce serait un petit peu comme demander quelle est l'application de la masse ou voilà, c'est juste là, et c'est juste un constituant vraiment fondamental du monde.
Bien sûr, et puis on va tout de suite approfondir aussi les enjeux théoriques, enfin en recherche théorique sur ce concept très fondamental. On peut quand même aussi évoquer le fait que c'est une notion très utile pour l'informatique également, Antoine Bourget.
Alors, pour l'informatique, oui. Alors,
je pense au fait, par exemple, dans l'informatique quantique, le spin qui est utilisé pour créer des états quantiquement binaires, par exemple.
Oui, voilà. Donc, le spin 1,5, c'est le système prototypical de l'analogue quantique du bit. Donc, le bit classique, c'est quelque chose qui prend une valeur, 0 ou 1. Et donc, le bit quantique, il faut trouver quelque chose qui va pouvoir faire une superposition. Et le modèle le plus simple, c'est un électron. Lucille a raconté tout à l'heure qu'on pouvait être à la fois dans l'état up et down, donc qui tourne vers le haut ou vers le bas, ou vers droite, gauche, à la fois. Et c'est cet infini nombre de combinaisons possibles qui fait que dans un bit quantique, on peut en principe stocker une très grande quantité d'informations. Enfin, en tout cas, c'est l'idée vraiment de base. Et ensuite, en mettant plusieurs, si on arrive à faire des opérations logiques là-dessus, on pourra faire de l'informatique quantique.
Voilà, et bien, fini de parler de qubits, continuons de parler et de tourner autour du spin avec notre reportage du jour. Expérimentalement, l'étude des propriétés du spin ouvre des perspectives dans des domaines appliqués comme la métrologie quantique ou les matériaux. Et on continue d'en parler avec vous. Avec vous, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour, Natacha.
Vous êtes allée au laboratoire Kastler-Brossel du Collège de France pour vous intéresser à un atome au spin géant qui recèle de ce potentiel.
Oui, le dysprosium dans le spin est égal à 8, là où celui des bosons est de 1 ou celui des fermions de 1,5. Alors, le dysprosium, c'est un lanthanide, un métal de type terre rare, et sa force, c'est qu'on peut y exploiter jusqu'à 17 niveaux quantiques. Sous forme de gaz ultra-froid, on peut l'observer en superposition quantique stable. On peut alors créer des sortes de chats de Schrödinger pour faire des expériences inédites. C'est la prouesse réalisée par l'équipe de Sylvain Nassimben, professeur à l'ENS, pour des applications en métrologie quantique ou bien s'atteler à de la physique à plus grande échelle.
Notre recherche, ça consiste en la réalisation d'états de ce spin géant qui sont eux-mêmes fortement non classiques. Et notamment, donc, quelque chose qu'on a fait il y a quelques années, c'est de réaliser un état dit chat de Schrödinger, qui consiste à un état de superposition quantique entre deux états quasiment classique.
De manière stable
de manière stable, à une échelle quand même assez faible, c'est-à-dire en pratique, il vit moins d'une milliseconde.
C'est déjà mais considérable pour penser les enjeux de stabilité face à la décohérence.
Voilà, c'est ça. Et ça nous permet de quand même pouvoir le sonder ses propriétés. Et ici, donc, on fait la superposition d'un état où tous les spins élémentaires pointent dans une direction. Et le deuxième état, c'est lorsque ces 16 spins élémentaires pointent dans la direction opposée. Donc en quelque sorte, on peut le voir comme la superposition entre un petit aimant qui serait aligné dans une direction et la superposition de cet aimant aligné dans la direction opposée.
Et en pratique, comment on met en œuvre des expériences pour observer ces états de superposition ici, sur le dysprosium ?
Alors, donc, au départ, les atomes sont dans l'état de plus basse énergie. C'est un état...
ultra-froid, donc.
Voilà, ultra-froid.
C'est-à-dire, au niveau température, on est proche du zéro
alors,
absolu.
Proche du zéro absolu, c'est-à-dire, pour nous, une température qui est dans à peu près le millionième de degré au-dessus du zéro absolu, donc le micro-Kelvin. Donc ça nous permet d'avoir un nuage très localisé dans l'espace et puis aussi qui s'étend peu parce qu'il a une distribution de vitesse assez limitée.
Sous forme de gaz.
Voilà, sous forme de gaz. C'est un gaz localisé qui fait quelques micromètres de large. Et ensuite, on envoie des faisceaux laser sur ce nuage pour modifier l'état de spin et le transformer en un état non classique. Donc on peut peut-être rentrer. Donc...
Bonjour.
Moi, je suis Mathis Demouchy, je suis en première année de thèse dans l'équipe de Sylvain.
Et donc, il fait tourner l'expérience actuellement. Alors, il est devant l'ordinateur de contrôle où il définit tous les paramètres de l'expérience.
Sur quoi porte votre thèse plus précisément ?
Il a porté sur essayer de faire un capteur magnétique très précis en utilisant le dysprosium.
Quand on parle de métrologie quantique, c'est ça, on exploite les propriétés du dysprosium pour mesurer le magnétisme.
C'est montrer qu'en fait, si on réalise des états justement non classiques, ou le contraire de ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire on veut faire en sorte que tous les petits spins qui composent le dysprosium ne soient pas tous alignés dans la même direction. Donc dans ces états-là, on peut montrer qu'ils sont beaucoup plus sensibles que ce qu'on serait capable de faire avec des petits aimants classiques, en exploitant donc les effets de superposition quantique.
Ce qu'on a derrière nous, ce sont des tables optiques qui sont protégées
C'est un système fermé. Donc si on ouvre les portes...
perturber la manip en cours si on ouvre les...
Non, pas particulièrement, mais il faudrait juste porter des lunettes cause des lasers.
À cause des lasers, oui.
Alors, je peux vous montrer l'expérience. Donc, l'expérience, c'est une énorme machine.
Comme un placard.
Voilà. Qui comprend un système à vide qui contient les atomes. Parce que les atomes sont complètement isolés de l'extérieur pour qu'on puisse les préparer au micro-Kelvin. Et ensuite, c'est entouré d'un très grand nombre de faisceaux laser qui permettent soit de confiner les atomes, soit de les refroidir, ou soit à la fin de l'expérience, une fois que les atomes sont froids, de justement contrôler l'état de spin et préparer ces états Schrödinger. Alors, si vous voulez, on peut aussi voir en direct comment ça se passe au niveau des atomes. Donc là, vous voyez, sur l'écran l'image qui vient d'être prise. Donc, en fait, on refroidit les... Enfin, l'expérience, ça consiste en des cycles d'une vingtaine de secondes où on refroidit le nuage et ensuite on fait une dynamique sur le spin et ensuite on sonde le nuage et on recommence ensuite. Alors vous voyez ici un nuage ultra froid, donc sa taille, ça représente en fait l'extension due à la température qui est quand même pas nulle, même si elle est toute petite. Et donc, ce qu'on va vous montrer, c'est qu'on est capable de visualiser les différents états de spin possibles du dysprosium. Et donc, ils vont appliquer un gradient de champ magnétique pour justement séparer ces 17 états. Et donc, on va voir le nuage se séparer à un certain nombre de sous-paquets. Là, voilà, là, vous voyez, ça y est. La séparation des nuages en un certain nombre. Bon, alors on peuple pas sur cet exemple les 17 diffus, en hein. même temps. C'est un peu diffus. Alors, il faut bien analyser les images, mais on voit bien que ça s'est séparé en un certain nombre de sous-composantes. Et c'est à partir de ce genre d'informations, à savoir quels états parmi ces 17 sont peuplés en fonction de comment est-ce que. De la direction d'observation de l'état de spin qui nous permet de caractériser les propriétés quantiques de l'état, notamment ces états Schrödinger.
Merci Céline Lozen. Nos reportages loin du studio pour découvrir la science en train de se fabriquer, c'est notre collection La Science au Labo et c'est à retrouver sur l'application Radio France. Lucille Savary, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Oui, donc là, c'est une application très intéressante, donc en l'occurrence des atomes froids, mais les états, les différents états dont parlait Sylvain, c'est justement, ça va être différents états qui sont liés au fait que l'atome de dysprosium a un grand spin, et donc... va avoir beaucoup d'états possibles différents qui vont être les différentes... Alors, il a un spin donné, mais plus le spin est grand et plus il peut avoir de directions possibles. Un spin admis, il peut être seulement vers le haut ou vers le bas. Et un spin plus grand va pouvoir être dans plusieurs directions, beaucoup plus de directions discrètes.
Antoine
correspond à des états différents.
Antoine Bourget, c'est les questions de température qui vous ont fait réagir à l'écoute.
Oui, donc c'est vrai que pour voir les propriétés quantiques, on est souvent obligé d'être à très basse température, puisqu'on est comme ça, on est loin de toute agitation thermique qui pourrait détruire les superpositions. Mais il y a certains contextes où le concept de basse température est très très relatif, et en particulier un cas où le principe d'exclusion de Pauli dont on faisait référence tout à l'heure joue un rôle, c'est dans la stabilité des étoiles, hein, qui donc ce principe s'oppose à leur effondrement et ça fait ces objets, ces gros objets quantiques qu'on appelle des naines blanches et qui sont à température très basse, mais ce qu'on appelle très basse ici, ça peut être de l'ordre de 10 millions de degrés. Ça c'est très bas, parce que c'est très bas par rapport aux échelles qui sont pertinentes dans ce contexte.
Et bien à partir de maintenant, quels sont les liquides de spin quantique et les glaces de spin quantique? Restez à l'écoute, on y arrive.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Lucille Savary et Antoine Bourget, nous faisons une émission sur une notion fondamentale de physique quantique, le spin, un élément de classification capitale des particules. Alors quand on met plein de spins ensemble, qu'est-ce que ça fait? On l'a évoqué, bien, quand on met beaucoup de spins ensemble, leur comportement va dépendre de si les spins sont entiers ou non entiers. Et en fonction, ça va pouvoir former des états nouveaux de la matière. Quoi comme type d'état, Antoine Bourget?
Alors, je ne sais pas si c'est à moi qu'il faut poser la question, mais
Et je me tournerai tout de suite après vers Lucille, évidemment.
Mais je dirais que les choses qui ont été découvertes assez rapidement après la découverte du spin, hein, c'est vraiment dans les années 20-30, ce sont ces nouveaux états qu'on appelle d'un côté les condensats Bose-Einstein, donc ces espèces de... Quand on a des bosons, donc des particules de spin entiers, ils ont un espèce d'instinct grégaire, ils aiment être tous les uns sur les autres, et donc si c'est fait avec de la lumière, ça fait des lasers, mais on peut aussi faire ça avec de la matière, et donc on a ces états très très étranges. Et puis avec les fermions, c'est l'opposé, eux, ils peuvent pas être les uns sur les autres, et ce principe d'exclusion de Pauli qui joue un rôle fondamental dans la structure de la matière, mais qu'on peut aussi voir à l'échelle quantique, et c'est ce qu'on appelle c'est la statistique de Fermi-Dirac, mais c'est ce qui est responsable de ce que je disais avant sur les étoiles, la stabilité des étoiles.
Voilà, puis ce principe en effet de Bose-Einstein, c'est un peu c'est comme, on a tendance à croire que le quantique correspond simplement à des choses microscopiques, mais en fait on a accès à des effets visibles, et en fait cette étude sur les glaces de spin, qui est donc un de ces autres états de la matière, ça a commencé justement il y a un demi-siècle avec cette découverte des matériaux dits supraconducteurs. Lucille Savary, vous étudiez une large palette de comportements où les interactions entre électrons jouent un rôle fondamental, par exemple les liquides de spin quantique aux propriétés magnétiques étonnantes. Alors que sont justement ces liquides de spin quantique?
Alors, pour revenir juste sur la notion, la différence glace et liquide, liquide de spin, ça va être un état ou un ensemble d'états. Les glaces de spin, ça se réfère à des matériaux en particulier dont l'état fondamental peut être un liquide de spin. Et ces matériaux en particulier, en fait, je reviens du coup sur le reportage, des candidats justement pour lesquels l'état fondamental pourrait être un liquide de spin, c'est des matériaux à base d'ytterbium qui sont aussi des lanthanides, comme le dysprosium dont on vient de parler, mais avec un spin encore plus grand. Mais du coup, ça c'était la petite parenthèse pour bien différencier. Enfin, voilà, c'est pas la même chose, les glaces et les liquides, c'est pas dans le même espace. Donc les liquides de spin,
c'est un état de matière
particulier. Donc la matière, grosso modo, telle qu'on l'étudie, c'est des cristaux. Donc il y a des atomes qui sont répartis de manière très régulière dans l'espace. Donc si vous imaginez par exemple au point d'un cube, alors c'est très rarement aux 8 coins d'un cube, c'est le réseau, ça s'appelle, est très rarement un cube, c'est plus facile à imaginer. Et sur chacun de ces sites, donc de ces atomes, si on avait un conducteur, on peut imaginer que les électrons sautent d'un atome à l'autre et vont conduire l'électricité. Là, il s'agit d'isolants. Donc, on connaît les isolants aussi, puisque justement, ils recouvrent nos fils de cuivre. Donc, il n'y a pas de conduction. Les électrons ne sont pas libres de voyager. Mais les isolants aimants, donc, ils vont avoir un spin bien défini sur chaque site. Sur chaque site du réseau, donc sur chaque atome, qui vont interagir entre eux. Et ça va être par exemple le cas si vous avez un aimant qui pourrait coller à votre frigo. Il va avoir tous ces, c'est un petit peu plus compliqué encore une fois, mais il va avoir tous ces spins qui vont pointer dans la même direction. Donc ça va faire un gros aimant et ça va pouvoir se coller à votre frigo. Les liquides de spin, et ça c'est le comportement le plus commun. Alors ils sont pas forcément ils font pas forcément un aimant net, mais en tout cas on peut dire à chaque site, le spin pointe vers le haut ou le spin pointe vers le bas. Ils sont pas dans une superposition particulière. Et un liquide de spin, ce qui est beaucoup beaucoup plus rare, parce que même si la physique quantique autorise à faire tout un tas de choses extraordinaires, malgré tout, globalement, les matériaux ont un comportement plus facile, enfin, qui plus classique. Mais les liquides de spin, donc, c'est un peu l'opposé, où là, on va avoir une superposition d'états macroscopiques. C'est-à-dire que c'est pas sur chaque site que le spin est en haut ou en bas, mais il faut voir la superposition, comme si je ne sais pas si j'ai un matériau avec, ce serait tout petit, mais 10 spins, ça va être une superposition de up, 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 down, down, up, down, et up, down, up, down, up, down. C'est vraiment la superposition de l'ensemble.
Les liquides de spin, c'est un état de la matière extrêmement intriqué.
Exactement. C'est l'intriqué à grande échelle et ça permet d'avoir des phénomènes émergents. C'est ça qui est intéressant.
Et quant à la glace de spin, alors ça correspond à une classe de matériaux particuliers qui réalise un liquide de spin particulier.
Exact.
Très bien. Mais alors ça, c'est quoi par exemple?
Alors, donc, la glace de spin, donc, c'est un modèle qui s'applique à une très grande classe de matériaux à base de lanthanides. Donc, par exemple, un des matériaux candidats, ce serait l'ytterbium 2, titane 2, oxygène 7. L'atome important, en l'occurrence, c'est l'atome d'ytterbium, donc le lanthanide, comme le dysprosium, mais avec un spin plus élevé, mais qui, de manière effective, devient un spin 1,5, et qui réside non pas au coin d'un cube, mais au coin de tétraèdre. Et la raison, le fait que ce soit sur des tétraèdres est importante, parce que ça donne lieu à la notion de, c'est lié à la notion de frustration qui permet d'avoir la réalisation de ce genre de phénomène.
Voilà, et lorsqu'on met énormément de spins demi-entiers ensemble, énormément de l'ordre du million, de milliards, de milliards, on observe des phénomènes dits émergents. Alors là, on arrive vers la fin de cette émission, Lucile Savary, mais de quel type de phénomène émergent peut-il s'agir?
Donc encore une fois, c'est pas, il faut qu'il y ait des interactions particulières, un réseau particulier, etc. C'est pas si on met un ensemble aléatoire de particules ensemble. Donc ça, c'est juste une petite précision. Et au niveau des phénomènes émergents, eh ben en fait, on peut avoir des particules émergentes qui apparaissent, donc des particules fractionnaires ou qui sont pas du coup dans le tableau des particules fondamentales comme on a discuté jusque là, mais ça va être un électron mais qui serait privé de son spin, ou un électron mais privé de sa charge. Donc c'est pas vraiment un électron, on l'a dit tout à l'heure, puisqu'un électron doit avoir une charge et un spin. Donc c'est autre chose, quelque chose qui ne pourrait pas exister du tout si on avait seulement un petit nombre de particules qui interagissaient entre eux. C'est comme l'analogie de l'émergence, c'est avec une analogie, c'est une plage de sable, un grain de sable, ça donne pas du tout la même chose, enfin une plage de sable est beaucoup plus riche qu'un grain de sable.
En tout cas, merci pour de nous avoir présenté voilà ces explorations des différents états de la matière. Merci Laurent Antoine Bourget tout et merci Lucile Savary. On quitte tout de suite la glace de spin quantique puisqu'on retrouve comme chaque jour Alexandra Delbo et là, direction l'Antarctique pour le Ice Memory, cette bibliothèque de cartes de glace, c'est la chronique avec science.
Comment protéger juridiquement des carottes de glace? Les carottes de glace, ce sont des prélèvements que les scientifiques font dans les glaciers et qui nous donnent des informations cruciales sur les climats passés grâce aux petites bulles d'air piégées dedans. Mais avec le changement climatique, les glaciers fondent et font disparaître ces précieuses archives. Et sans informations sur le climat passé, il est bien plus difficile de comprendre le climat à venir. C'est tout l'enjeu d'Ice Memory. Prélever, stocker et préserver ces témoins, le site situé sur la station de Concordia en Antarctique vient tout juste d'être inauguré et de recevoir ses deux premières carottes, une française et une suisse. Mais l'initiative a démarré en 2015 et presque dès son lancement, Ice Memory s'est retrouvé confronté à des questions d'ordre juridique. Sabine Lavorel est professeure de droit public au Centre de recherche juridique de l'Université Grenoble-Alpes.
À partir du moment où cette collection de glace a commencé à être constituée, se sont posées des questions très concrètes pour se rendre sur place, sortir les carottes de glace du pays dans lesquels elles avaient été forées, les stocker, etc. Et donc, les scientifiques se sont heurtés donc, à partir de ce moment-là à des questionnements juridiques très concrets. Et puis, de manière assez simultanée, ils se sont également projetés sur le stockage de ces carottes, en ayant la volonté donc de les stocker en Antarctique, mais en se demandant finalement quel allait être l'environnement scientifique et juridique de ce stockage. Donc, c'est à ce moment-là que la Fondation AS Memory m'a contactée, dans le cadre des recherches que je faisais à l'époque sur l'Antarctique, pour me demander donc quels étaient les questionnements très précis qui se posait sur le projet Ice Memory.
À qui appartiennent les carottes de glace d'Ice Memory ? À celui qui creuse ? À celui qui finance le carottage ? À celui qui détient le glacier ? Et est-ce qu'une carotte de glace a le même statut juridique que le glacier dont elle provient ? À ce stade, ce n'était qu'une question très concrète pour faire sortir légalement des carottes de glace de Bolivie. Pour répondre à ces questions, il faut fouiller dans les textes de loi des 13 pays partenaires. Cette chercheuse a ainsi rassemblé plusieurs étudiants en droit de l'environnement pour plancher sur ces questions. Et le travail a révélé une chose, il y a plus de questions que de réponses. Et ce qui rend ce projet Ice Memory si difficile à appréhender juridiquement, c'est sa triple nature. En fait, Ice Memory, c'est d'abord une expédition scientifique. Aller chercher, forer, récupérer et déplacer des carottes de glace. Ensuite, c'est un congélateur en Antarctique pour les stocker. C'est une grotte sous glace à Concordia qui reste à moins 52 degrés en permanence. Et puis, c'est aussi une bibliothèque destinée à être consultée par les scientifiques. Finalement, chacune de ces dimensions se heurte à des vides juridiques. C'est comme ça qu'une question très concrète, qui n'a a priori rien à voir avec les sciences, devient un véritable sujet de recherche. La chaire Ice Memory Droit et Gouvernance, que dirige Sabine Lavorel, a donc pour objectif de combler ces vides.
Le premier questionnement reste la propriété des glaciers et des carottes de glace. Puisqu'on est face à un vide juridique et puisque le droit actuellement ne règle pas cette question, ça veut dire qu'il faut que les chercheurs en droit soient force de proposition pour faire évoluer le droit en la matière et pour qu'on ait finalement des réponses juridiques à ces questions sur la propriété d'une collection scientifique particulière qu'est la collection de carottes de glace Ice Memory. Le deuxième axe de travail que l'on a, c'est sur le sanctuaire lui-même, donc cette cave où sont stockées en Antarctique ces carottes de glace, puisque l'Antarctique est donc soumis à un statut très particulier de non-appropriation, d'usage principal à destination de la science, etc. Et donc, il faut que le statut qui régit le sanctuaire soit complètement cohérent et conforme au statut qui régit l'Antarctique lui-même.
Et puis, troisième axe de recherche, c'est la gouvernance à terme de cette carothèque. La fondation Ice Memory n'a pas vocation à durer éternellement. Le but est de confier ce sanctuaire à un groupe d'États pour que tous les scientifiques des générations futures puissent accéder sans restriction à ces carottes de glace pour les analyser. D'autres initiatives de conservation existent déjà, comme la réserve mondiale de graines au Svalbard, mais les questions juridiques ne sont pas les mêmes. Une graine peut être replantée, alors que pour analyser une carotte de glace, il faut en prélever des morceaux et donc en partie la détruire. L'objectif à long terme, c'est de dupliquer l'initiative, de multiplier les sanctuaires comme Ice Memory pour qu'ils puissent être établis par d'autres États et assurer la vie éternelle à ces carottes de glace.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute.
Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, c'était Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Grégory Wallon. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.